RMC entre les poteaux,
Georges Quirino.
On est ravis de vous retrouver comme toutes les semaines dans votre podcast Rugby RMC entre les poteaux. Abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast. Chef Templier est en vacances. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas Paolorsi. Salut Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Tout va bien Nico?
Oh bah parfait, parfait, écoute, tout va c'est bien, il commence à faire doigt à Bordeaux, ça envoie du rugby dans tous les sens, on se régale.
Oui, c'est vrai qu'à Bordeaux, t'es pas trop mal en ce moment, on va pas se le cacher.
Bah, c'est pas trop mal à la fin de saison.
Arthur Jean est là, salut Arthur.
Salut Georges, salut tout le monde.
Ça va, tout va bien?
Bah parfaitement bien aussi, hein, tout va bien, il fait aussi beau à Paris, donc on essaie d'en profiter, bien que mal.
Ouais, mais sauf que le problème, c'est que Racing Stade François,
c'est moins bien,
fermé par
c'est
exemple.
Bien, là.
Oui, en plus, mais bon, on peut pas profiter du soleil et tout ça, mais c'est vrai qu'on a eu un beau week-end de derby, notamment en top 14. On vous invite à écouter le week-end des poteaux, bien sûr, si vous voulez avoir un retour sur ce qu'il s'est passé. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la marche entre la Pro D2 et le top 14 n'est pas devenue trop grande? On va parler de la difficulté à accéder et surtout à se maintenir parmi l'élite. Évidemment, on va parler de la situation de Montauban, promu surprise l'an passé et qui vit une saison un peu compliquée, voilà, cantonnée à la place de Lanterne Rouge. Depuis quelques années, c'est vrai que beaucoup de promus font l'aller-retour immédiat. On pense à Grenoble, on pense à Biarritz, à Oyonnax, à Vannes. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, est-ce que c'est pas mission impossible de s'installer parmi l'élite quand on vient de l'échelon inférieur? Est-ce un problème un peu provoque? On va se demander, est-ce que le top 14 n'est pas une ligue fermée presque? On va en parler avec Sébastien Tillousborn, le manager de l'Union Sportive Montalbanaise, dans un instant, et avec Philippe Saint-André, manager de Provence Rugby, club en course pour la montée en top 14 la saison prochaine et habitué, et voilà, accessoirement un ami de la maison, hein, participe aux grandes gueules du sport, Philippe, mais c'est vrai que ça va être intéressant d'en parler avec nos deux acteurs. Entre les poteaux, c'est parti.
C'est terminé, Van est en top 14, messieurs, Van est en top 14, voilà. La Bretagne va découvrir le top 14 historique. Ils étaient montés en Pro D2 en 2016 et 8 ans après, ils sont dans l'élite du rugby français. C'est un envahissement de terrain, c'est incroyable.
Le RCV va avoir un hommage ici des supporters pour sa belle prestation générale en top 14, même si son destin ne tient plus qu'à un fil désormais. Faudrait aller chercher un bonus offensif du côté de l'UBB la semaine prochaine.
Allez, la dernière introduction pour Powell, justement. Cette mêlée, ils vont pousser de toutes leurs forces. Les Montalbanais, ce ballon sort dans les bras de Fortunel qui dégage. Montauban est en top 14. Montauban bat Grenoble, remporte la finale. Et incroyable, Montauban monte en top 14 et sera promu la saison prochaine.
On peut même souligner l'enthousiasme des supporters, hein, qui sont toujours là, hein, c'est plein, hein, il y a 8500 personnes, c'est toujours plein, il y a toujours les... On a à côté une sorte de cop là, qui ne lâche pas, qui tape sur les tambours comme ça et voilà, ils sont derrière leur équipe, mais c'est trop difficile cette saison pour ce Montauban là. Ils ont une superbe aventure collective dans les phases finales, mais derrière, un seul match gagné cette saison.
Voilà, on a retracé l'histoire des promus, les belles histoires et les histoires un peu plus compliquées une fois qu'on accède à l'élite. Alors les amis, depuis la saison 2017-2018 et l'instauration du nouveau système de montée et descente, c'est-à-dire que quand on est premier de Pro D2, on n'accède pas directement, il faut faire une phase finale. Seuls 4 promus sur 10 ont réussi à se maintenir, 60% redescendent immédiatement. Sur les 3 dernières saisons, on pense à Oyonnax qui a fait l'ascenseur 2023-2024, Vannes l'an passé et Montauban en passe de faire pareil. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui en fait par rapport à cela, Nicolas Paolorsi? Si, qu'est-ce que t'en penses?
Un problème, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le modèle du top 14, les budgets colossaux qu'il y a, la redistribution des droits télé également, qui sont de plus en plus importants, font que ça devient très difficile pour un promu de survivre dans l'élite, de s'installer dans l'élite et de construire un projet sur 2-3 saisons qui va te permettre derrière d'être compétitif. Sans parler bien évidemment de la formule de la Pro D2, où tu vas potentiellement jouer un access match à la mi-juin autour du 13 juin et tu as à peine 2 mois pour composer un effectif de top 14, c'est impossible pour faire signer des joueurs. Les mercatos sont anticipés vraiment très tôt. Donc, je n'arrive pas à savoir si c'est un réel problème, parce que si on décide de faire une ligue fermée un peu en mode NBA ou comme la première chip anglaise a pu le faire pendant 3-4 ans pour protéger ses clubs, pourquoi pas? Le problème, c'est que ce modèle-là, il n'est pas vraiment assumé, qu'on fait croire à des clubs de l'étage inférieur qui peuvent participer à cette grande fête du top 14, sauf que c'est impossible pour eux de rivaliser en fait.
Arthur?
En fait, moi je pense pas que ça soit vraiment un réel problème, c'est-à-dire qu'il y a des exemples récents, moi je vais aller à l'inverse de ce truc-là, c'est-à-dire qu'il y a des exemples récents qui ont montré que c'était capable de que certains clubs étaient capables de se pérenniser en top 14 et de rester en top 14 avec des projets qui sont construits, qui sont réfléchis. Là, si on prend la situation de Montauban, on va en discuter avec Sébastien dans quelques instants, mais c'est un peu un ovni dans le paysage rugbystique français, c'est-à-dire que Montauban n'était pas préparé à monter du tout. Donc, t'apprends ça, on va dire, à la dernière journée, dans la finale dans cet access match. Donc, je ne pense pas que c'est le meilleur exemple à prendre, mais il y a des projets récents qui ont montré que c'était possible. Le Stade Rochelet, il y a un peu plus longtemps, l'Aviron Bayonnais, on peut penser à Perpignan aussi, même si c'est un peu plus compliqué cette saison-là. Effectivement, il y a un gap énorme pour plein de raisons différentes entre les clubs de top 14 et les clubs de Pro D2. Mais il y a des projets qui ont montré que c'était possible de s'inscrire dans la durée au plus haut niveau, je trouve.
Et pour parler de ce sujet, on a deux acteurs avec nous qui, on va dire, sont les mieux placés peut-être pour en parler, pour avoir un débat de qualité. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'on va faire un débat de qualité avec
ça
vous.
Ça fait plaisir. Hein.
Mais quand même. Sébastien Tillousbord, le manager de l'Union Sportive Montalbanaise, est avec nous. Salut Sébastien.
Salut.
Et merci d'être avec nous. Et on est rejoint aussi par Philippe Saint-André, manager de Provence Rugby, troisième actuellement pour les deux, qui se bat pour la montée. Salut Philippe.
Salut, bonjour à tous.
Ça va Philippe?
Ah, ça va, ouais. Bon, je ne suis pas très d'accord avec certains de votre philosophie, donc on va pouvoir en débattre.
On va pouvoir en débattre. Bon, Sébastien Tillousbord, donc avec Montauban en ce moment, effectivement, on en a parlé en présentation de cette saison, sur le fait que vous n'étiez pas forcément programmé pour monter. Comment est-ce que vous vivez cette saison déjà à Montauban, Sébastien? Comment tu vis ça?
Bon, c'est une saison difficile, parce que quand tu gagnes que très peu de matchs, c'est toujours compliqué. Mais bon, on arrive à maintenir le groupe dans une bonne dynamique. On arrive à bien s'entraîner. On a fait un bon match ce week-end contre Toulon. À la 62e ou 3e, on était à 26-22. On a lâché un petit peu sur la fin, sur quelques erreurs. Mais si je reviens sur le débat, je suis assez d'accord avec le dernier discours. Moi, je pense que c'est possible de se maintenir en top 14. Comme on a pu le dire, c'est vrai que nous, on était sixième, on n'a pas du tout préparé de monter puisque un an avant, le club a failli descendre en national. Donc l'objectif, c'était le maintien de la saison. Et au fur et à mesure de la saison, on a l'objectif qui a été revu à la hausse. Et on a fait des phases finales qui étaient incroyables. On est monté de cette manière-là, mais le club n'était pas prêt à monter.
Ah, on a perdu Sébastien, on va le retrouver dans un instant. Tiens, Philippe Saint-André, tu disais que tu n'étais pas forcément d'accord avec ce qui avait été dit sur ce que c'est un problème ou pas ce qui se passe actuellement.
Disons que pour l'instant, on va dire que c'est un top 15 maquillé. Pourquoi ? Parce que les dernières fois où les équipes de D2 sont montées, c'était à l'époque où le champion montait automatiquement.
Ouais, directement.
Le Racing, le Loup, Toulon. Donc, dès le mois de janvier ou le mois de février, ils pouvaient commencer à s'occuper d'un recrutement de top 14. Moi, par exemple, il y a deux ou trois mois, j'aurais pu prendre 5-6 joueurs exceptionnels pour le top 14. Le problème, c'est que Provence Rugby, comme tous les clubs, vont savoir si tu montes en top 14 début juin ou mi-juin. Donc maintenant, où je ne suis pas d'accord avec le dernier interlocuteur, c'est que maintenant, les équipes qui sont montées, comme Perpignan ou Bayonne, c'est une équipe qui est montée, elle est redescendue l'année d'après. Vu que tu as, on va dire, un parachute doré, elle a gardé sa masse salariale sur l'année de D2, et après elle est remontée en top 14, et là elle a pu rester en top 14. Et c'est ce qu'est actuellement fait Vannes, c'est-à-dire que Vannes est montée en top 14 avec une masse salariale qui était plus importante. Ils ont gardé cette masse salariale cette année, et actuellement ils dominent la D2. Et là, par contre, s'ils arrivent à être champions cette année ou à gagner l'Access Match, ils vont pouvoir vraiment s'asseoir en top 14. Mais le problème de ça, c'est que si jamais ils ne montent pas cette année, ils ne vont pas pouvoir après garder cette masse salariale parce que les rentrées d'argent sont complètement différentes en D2 qu'en top 14. Et donc, on a pu voir des équipes comme Oyonnax, etc., qui, l'année d'après le top 14, s'il ne remonte pas automatiquement, et ben après, c'est compliqué sur l'aspect financier et sur l'aspect des contrats. Donc, on peut dire que sur des projets sérieux, comme Vannes, comme Provence Rugby, comme Brive, comme plein d'équipes, c'est pratiquement une vision à 3 ans. C'est-à-dire, tu montes, tu redescends, tu as eu 9 chances sur 10 de redescendre. Pourquoi ? Parce que le marché au 15 juin, eh ben, il n'y a plus beaucoup de très bons joueurs, à part faire des coups à l'étranger, donc sur des non-gifs, et peut-être un ou deux gifs sur l'équipe qui descend de top 14, et donc il y a souvent dans leur contrat des options, si jamais le club descend des deux, de pouvoir signer ailleurs. Mais c'est vraiment des projets, on va dire, à 3 ans, en faisant l'ascenseur, et en ayant après un effectif de qualité, un effectif prêt à jouer au top 14 sur la 3e année. Donc pour moi, non, c'est pour l'instant, on n'est pas sur un top 14, on est sur un top 15 maquillé, parce que pour moi, je le trouve complètement malhonnête intellectuellement, que Vannes, qu'il a actuellement à 104 points, etc., ne sait pas et ne sait toujours pas si elle va monter en top 14. Et donc, c'est énormément compliqué sur l'aspect masse salariale, sur l'aspect recrutement de qualité pour pouvoir après exister en top 14. Parce qu'en plus, dans le calendrier de D2, les joueurs de D2, ils ont l'habitude de faire des blocs de 5 semaines, une semaine de repos. Bloc de 4 semaines, une semaine de repos. 2 semaines de vacances à Noël. Quand tu rentres dans le top 14, tu as des blocs de 11 semaines d'affilée.
Ça n'a rien à
et
voir.
Tu t'aperçois, et là, on va demander à Sébastien Tillusbord, mais tu t'aperçois que tous les clubs de D2, depuis les 4-5 dernières années, elles font un bon début, elles s'accrochent, et à partir du mois de janvier ou du mois de février, elles explosent complètement, physiquement, mais aussi mentalement, intellectuellement, parce que les joueurs n'ont pas l'habitude aussi de ce format du top 14 plus la Coupe d'Europe.
Sébastien Tillusbord, on t'a retrouvé.
Il nous a fait le podcast. Oui.
C'est terminé, on peut s'arrêter.
Sébastien, on t'a retrouvé. Non, mais t'es d'accord avec ce qu'a dit Philippe là, sur la difficulté dans la remontée et...
Je suis d'accord avec lui. Mais pour revenir à nous, on est monté, rien n'était prévu.
Bien sûr.
Le club n'était pas prêt. On a pris la montée, on n'a pas fait de recrutement, comme il a dit Philippe. Et cette année-là, elle nous a permis, aujourd'hui, ça nous a permis de construire, de continuer à construire le club. Donc, on n'a pas perdu de l'argent en montant, on a plutôt gagné de l'argent. On a fait les choses sereinement.
Et tu recrutes bien, là, je vois, Sébastien, tu prépares bien la saison prochaine.
Non, mais Philippe, tu as raison. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu montes, tu redescends. Et un club comme Vannes, par exemple, pour moi, il va monter l'an prochain. Ça va être 25 millions d'euros. Ils vont se maintenir parce qu'ils ont vécu déjà une saison avec ces joueurs-là. Ils ont préparé leur effectif depuis un petit moment pour la montée. S'ils remontent cette année, je pense qu'ils se maintiendront la saison prochaine parce qu'ils ont tout prévu. Ils ont eu l'expérience de 1 an en top 14. Ils sont redescendus. Comme il a dit Philippe, ils ont 5-4 points. Alors c'est sûr que si au mois de février, ils savent qu'ils montent, ils ont 4 mois ou 5 mois pour recruter, ou en tout cas pour peaufiner le recrutement et pour aller chercher des joueurs un peu plus XXL et qui vont permettre au club de se maintenir en top 14. Parce que le niveau, la différence, elle est énorme. Elle est énorme sur les joueurs individuellement, mais elle est surtout énorme sur la cadence du championnat. Et comme il a dit Philippe, les 11 premiers matchs, si on rajoute des matchs amicaux, c'est 13 matchs d'affilée. Derrière, tu as une semaine de coupure, de nouveau 11 matchs d'affilée. Les joueurs, ils ne sont pas habitués à ça en Pro D2. En Pro D2, comme il a dit Philippe, c'est 6 semaines, une semaine de repos, 5 semaines, une semaine de repos, 4 semaines, une semaine de repos. Et c'est une grosse différence. C'est une grosse différence par rapport à la vie de famille, par rapport à l'investissement au quotidien des joueurs.
C'est vrai, on n'en a pas assez, ça.
Et c'est assez incroyable. Mais
C'est un changement de vie, en fait, complètement, du jour au lendemain.
Un changement, exactement. Mais c'est un changement aussi...
Pas que la vie sportive, en fait.
Je pense aussi qu'il y a des joueurs de Pro D2, ils ne sont pas câblés pour jouer à Top 14, clairement. il faut dire la vérité. Moi, j'ai aujourd'hui des joueurs que j'adore, hein, mais qui n'ont pas le niveau pour jouer en Top 14. Et donc, j'ai un tiers de l'effectif qui est capable d'y jouer. J'ai un autre tiers qui n'est pas capable, il y a un autre tiers qui n'a pas envie d'y jouer. Pas envie parce que le championnat n'est pas bien, mais parce que la vie de famille, elle est différente. Parce que la vie au quotidien, elle est plus difficile de jouer en top 14. C'est dans chaque club, je pense, que ça se passe. Et en fait, il faut vraiment préparer ton effectif pour se monter là. Donc des équipes comme Provence, comme Brive, comme Vannes, qui ont des gros budgets, qui sont capables de monter. ben, ils sont capables d'à un moment donné de pouvoir rester dans ce top 14.
Et est-ce que, est-ce que... On...
Non mais Sébastien, ah, c'est vraiment important ce qu'il dit, c'est que aussi c'est une autre vie. Moi, je découvre ce que c'est que la D2, mais t'as 15 jours de vacances à Noël. Moi, ça m'était jamais arrivé. Moi,
jamais.
Je suis parti une semaine en vacances avec ma femme. Elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ?
Non, ouais, mais, c'est ça. C'est ça.
Et autre chose, la D2, tu joues le jeudi ou tu joues le vendredi soir. Donc, en règle générale, le dimanche, jour du Seigneur, tu es en vacances. Ouais, le top 14, tu joues le samedi, tu joues le dimanche.
Non, mais
c'est
sur
une
la vie.
Autre philosophie de vie. Et ce que dit Sébastien, et il a tout à fait raison, c'est que tu as certains joueurs de D2 qui sont câblés et qui sont capables de le faire et qui sont prêts à faire ces sacrifices. Mais il y en a certains, ils préfèrent rester dans le fonctionnement de D2, qui est un mode de vie, qui est un championnat aussi de qualité, mais c'est un écart incroyable par rapport au top 14.
Et Sébastien, d'ailleurs, dans ce que disait Philippe tout à l'heure sur, en fait, maintenant, pour monter, c'est un projet de 3 ans, en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste maintenant. Est-ce que toi, t'es déjà en train de réfléchir, on va redescendre, on a pris l'argent, comme tu disais, on a pris l'argent qui nous sert, là, à structurer quelque chose, pour être dans un projet, peut-être dans 2 ans, de remonter, en étant plus prêt.
Nous, la vérité, c'est qu'on est monté, on n'était pas prêt, on le savait, on n'a pas dépensé d'argent sur le recrutement puisque c'était très tard quand on l'a su. Donc juin, on ne va pas changer 15 joueurs pour aller chercher 15 joueurs qu'on ne connaît pas et dans les 15 joueurs, il y en aura qui ne seront pas bons, c'est sûr. Donc on n'a pas fait à la va-vite. On a gardé notre groupe, il méritait. Par contre, on en voit les conséquences aujourd'hui, c'est difficile de gagner. Mais par contre, ça nous a permis de construire le club au niveau de la formation, au niveau école de rugby, formation, au niveau de l'administratif, au niveau... Il y a tout qui a vraiment évolué ici à Montauban.
Au niveau culture même, j'imagine, Sébastien. Culture, top 14.
Au niveau de la culture aussi. Ouais. Mais par contre, moi, aujourd'hui, en fin de saison, j'ai 15 joueurs qui partent du club. Donc, j'avais un groupe qui était vieillissant. J'ai 15 joueurs qui partent. On va devoir reconstruire différemment de Vannes. Vannes, ils avaient un groupe, ils ont gardé ce groupe-là. Donc, de suite, ils ont été compétitifs. Moi, je vais changer ce groupe-là.
Mais pour toi, comme manager, c'est terrible aussi à faire ça. C'est violent, quand même.
C'est terrible, mais c'est le sport de haut niveau. Et donc dans tout ce que je dis, on met de l'affectif, bien sûr, il y a de l'humain, il y a de l'affectif, etc. Mais moi, j'ai un groupe qui est vieillissant. Donc moi, pour ma part, on va changer pas mal de joueurs. Bien sûr qu'on a envie de remonter, etc. Mais quand tu tombes dans le championnat de Pro D2, attention, ce championnat-là, il est difficile. On a vu Oyonnax, ils sont descendus, ils ont fini 8e l'année d'après. À part Vannes, qui montre vraiment l'exemple, qui est descendu, qui est resté clinique et qui est capable de mettre 104 points là, avant la fin de saison, il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont capables de le faire. Par contre, Vannes, comme il a dit Philippe, je pense que s'ils montent, l'an prochain, c'est 25-26 millions de budget. Ça y est, ils peuvent rentrer dans la cour des grands. Ça y est, ils peuvent c'est peut-être s'y imposer parce qu'ils avaient quand même fait une belle saison il y a 2 ans. Et là, ils pourront faire pérenniser quelque chose.
Ils finissent premier de la saison régulière.
Depuis quelques temps, c'est construit. C'est pas arrivé d'un coup, eux. Et ils ont construit
les
choses.
Juste sur les budgets, Sébastien, pour que les gens se rendent compte des choses, le Stade Toulousain, c'est le plus gros budget du top 14, c'est plus de 55 millions d'euros de budget. Philippe, tu dis si je me trompe, mais à Provence, vous êtes autour des 17-18 millions d'euros de budget.
C'est à peu près 16 millions d'euros. La SASP et 2 millions d'euros l'association, ce qui est beaucoup.
T'as rencontré les billets ou quoi?
Non, ce qui est beaucoup, ça fait 18 millions. Après, nous, on est le troisième budget. Brive, c'est le premier, je crois, qui ont 20,5 ou 21.
Ouais, c'est ça, 21.
Après, il y a Vannes. Et après, Provence Rugby. Par contre, Provence Rugby, nous, on Denis Philippon, qu'on a un président qui est visionnaire, etc., il sait que si jamais on est en top 14, automatiquement, entre les droits télé, les primes avec les partenaires sur monter en top 14, des prix différents sur les abonnements, etc., c'est 5 à 6 millions de plus d'euros de budget.
Mais c'est obligatoire.
Bon, après, nous, on est sur un projet.
Là où l'écart est terrible, Philippe, c'est que, par exemple, l'Aviron Bayonnais, qui fait une saison moyenne en top 14 cette année, c'est quasiment 15 millions d'euros de plus de budget que vous sur le papier. C'est pour ça qu'en fait qu'on dit que ce top 14 là, il est aussi inaccessible.
Oui, mais c'est pour ça que Sébastien, où il a raison, eux, ils étaient Enfin, ils ont fait des phases finales exceptionnelles, mais ils n'avaient pas préparé la montée. Par contre, ils l'ont bien expliqué. Là, ils ont rempli les caisses. Je vois le recrutement qu'il fait. Il fait un recrutement intelligent et cohérent. Mais maintenant, si tu veux monter en top 14, c'est un projet sur... sur 3 ans avec un aller-retour. Par exemple, nous, Provence Rugby, il y a un projet avec une tribune, une nouvelle tribune de pratiquement 25 millions d'euros, avec pratiquement 5000 personnes de plus, une bodega de 1500, 1800 personnes, des loges, etc. Donc il y a une vraie vision aussi pour que le jour où Provence Rugby veut vraiment jouer les gros bras, il faudra être sur un budget en top 14 entre 25 et 30 millions d'euros. Mais la problématique actuellement, c'est que comme tu montes au mois de juin, les meilleurs joueurs ne sont pas disponibles. Moi, j'espère cette année monter. On est troisième, on est dans la bataille. Mais je risque de faire comme Sébastien. Si on monte, j'aurai peut-être 1,5 million ou 2 millions de plus à dépenser dans ma masse salariale. Mais s'il n'y a pas de joueurs, je préférerais les garder et de faire quelque chose d'intelligent sur la saison d'après, parce que ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour des joueurs qui ne vont pas t'amener une plus-value dans ton groupe.
Arthur, comment vous construisez votre effectif quand vous savez que vous allez monter? Bon, je sais que Sébastien, ça a été un peu plus compliqué, évidemment, mais par exemple, peut-être une question plus pour toi, Philippe, mais là, on voit qu'à Provence Rugby, vous êtes fait prêter des joueurs de Pro D2.
Je ne fabrique pas l'effectif pour monter, parce que je ne sais pas si je vais monter. Donc c'est la problématique des règles du fait que tu sais si tu montes au mois de juin. Là, pour l'instant, ce que j'ai fait, j'ai sécurisé mon effectif pour la saison prochaine en gardant beaucoup de joueurs, parce que moi, Provence, on a besoin de régularité, on a besoin de repères, on a besoin de trouver un effectif cohérent. J'ai fait aussi déjà mon recrutement pour la saison prochaine. Par contre, j'ai gardé 5 ou 6 places, dont 4 non-GIF, si jamais j'ai la chance de monter en top 14, parce que je sais qu'au mois de juin, à part 1 ou 2 Français, comme je vous ai expliqué déjà, sur l'équipe du top 14 qui va descendre, sinon, les seuls moyens de récupérer des bons joueurs, ça sera en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, au Japon, à l'étranger, c'est en ça. Afrique du Sud. Mmh. Et donc, pour cela, il faut garder des jokers non-GIF. Mais Sébastien va vous l'expliquer mieux que moi. Il est monté, ils ont fait des phases finales exceptionnelles, mais mi-juin la saison dernière, il restait plus beaucoup de bons joueurs pour amener une plus-value à son équipe.
Sébastien.
Ouais. Non, exactement. Je suis d'accord avec toi, Philippe. Après, comme tu as dit, tu as gardé 4 ou 5 places non-GIF. Tu vas aller chercher des joueurs, parce qu'il y a des bons joueurs, mais non-GIF. Et c'est là où tu peux avoir une plus-value sur ton effectif. Mais dans les joueurs GIF, impossible. Par contre, ce que nous, on doit faire aujourd'hui, par rapport à ce que moi j'ai vécu quand on était en Pro D2 la saison dernière, c'est construire une équipe qui tient vraiment la route en Pro D2 et qui est même dominante pour pouvoir, à un moment donné, si tu accèdes au top 14, avoir des joueurs qui sont capables de se mettre à ce niveau-là. Et en fait, il faut arriver à construire vraiment un très bon effectif de Pro D2. Et comme il a dit Philippe, avoir des places de 4-5 non-GIF où tu peux aller chercher vraiment une plus-value, des gros joueurs d'Afrique du Sud, des All Blacks ou de l'Australie, peu importe. Et qui t'amène une plus-value directe dans un championnat qui est très très dur, quoi, finalement.
Franchement, quand on vous écoute, en fait, je pense qu'on comprend tout à fait, en tout cas mieux, la complexité que c'est pour vous, en fait. Ouais, la construction des effectifs. C'est des nuits blanches, là, franchement.
Philippe. Non, mais ce qu'il faut expliquer au grand public, par exemple, je ne sais pas, mais la masse salariale du top 14, c'est 10,2 millions. Plus après les internationaux. Toi, par exemple, en D2, ceux qui ont des gros budgets comme nous, on va dire qu'on a une masse salariale de 4,8 millions ou de 5 millions. Okay, et par contre, au 15 juin, tu montes, et là, on dit, ah mais non, tu n'as pas 5 millions, tu as 7,5. Donc, tu as 2,5 millions de plus. Mais ces 2,5 millions de plus, si je les avais eus il y a 3 mois... J'aurais pris 5-6 joueurs, pratiquement, j'aurais pris des internationaux. Mais ces 2,5 millions, je ne les avais pas. au mois de janvier, au mois de février. Et je vais les avoir, si je monte en top 14, je vais les avoir au mois de juin. Mais il n'y a plus de joueurs sur le marché. Donc, ouais. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, notre rôle, on a un président, on a un directeur général, on doit nous suivre la masse salariale et le budget de notre club. Et donc, ouais. À partir du moment où tu es en D2, tu suis le budget et le budget de ton club de D2. Et par contre, voilà, si au mois de juin, tu montes, mais c'est trop tard. C'est pour ça que je vous explique qu'il faut, comment ça s'appelle, les projets, même les bons projets comme Vannes, comme Bayonne, comme Perpignan, qui ont su monter, ils ont fait l'ascenseur. Une année, ils sont montés, ils sont redescendus pour remonter et pour vraiment avoir une grosse assise sportive, mais aussi administrative, comme Sébastien a expliqué, au niveau de la formation, au niveau des écoles de rugby, au niveau du plan de succession, etc. Parce que c'est un travail en amont qui est assez énorme, parce qu'entre le top 14 et la D2, et ben c'est deux championnats complètement différents.
Ouais, Sébastien, tu disais...
Donc en fait, il faut changer, la formule de la Pro D2, Philippe, et il faut revenir à l'ancienne formule où le champion, déjà, il monte. Comme ça, tu es sûr d'avoir un club au moins qui est à peu près structuré pour attaquer ta saison de top 14.
Mais t'es d'accord, Sébastien, il faudrait revenir peut-être au premier qui monte.
Cette ancienne formule, elle permettra au club qui est vraiment dominant en Pro D2 de pouvoir construire, comme il a dit Philippe, de pouvoir construire dans les 3-4 derniers mois, s'il y a vraiment une équipe qui est dominante, de pouvoir construire son effectif pour rivaliser, en fait. Et le problème, c'est que si tu n'as pas un effectif pour rivaliser, tu peux faire ce que tu veux à l'entraînement, c'est compliqué. Mais quand moi, je vois, nous, aujourd'hui, on a 14,5 millions de budget, on a masse salariale, elle est à 4,3 millions, quand tous les autres, ils sont à 10, 11, voire 12 pour d'autres équipes, c'est une grosse différence. Tu te bats tous les week-ends contre des effectifs incroyables.
Et pour les auditeurs, donc, 14 millions, c'est à peu près le quatrième budget de Pro D2 en termes d'équivalence.
Ouais, c'est ça. Je pense que l'an dernier, on était 8e ou 9e budget de Pro D2 et 9e budget. Et puis là, je crois qu'on est dans les 5-6, je ne sais pas exactement.
C'est à peu près ça, ouais.
Bon, Sébastien, tiens, avant de nous quitter, Sébastien Tiusbord, toi, justement, humainement, parce que c'est vrai que tu en as un petit peu parlé, mais comment on vit une fin de saison comme ça avec ces hommes? Parce que là, on a parlé de chiffres et tout ça. On a un petit peu parlé, effectivement, sur est-ce qu'on est câblé ou pas pour être un joueur de top 14 ou de Pro D2. Comment toi, tu vis humainement? Tu dois discuter avec tous tes joueurs pour savoir un peu quelle va être la feuille de route sur 3 ans, avec qui tu ne vas pas y aller. Comment on parle aux hommes, en fait?
Après, moi, ça a été très, très clair. On a fait notre début de saison. Comme il a dit Philippe, on était plutôt bien en début de saison. On a manqué de très peu certains matchs de gagner, de créer vraiment un déclic. Après, c'était plus difficile sur la deuxième partie, à partir de janvier. En janvier, moi, j'ai annoncé à tous les joueurs que je ne gardais pas, fin janvier. Tous les joueurs que je ne gardais pas, je leur annonçais que je ne les gardais pas. Donc, c'était un moment pas évident. Il a fallu garder tout le monde connecté, parce que tu perds, tu ne gardes pas des joueurs. Le but, c'était que les mecs restent dans le projet, continuent à jouer et surtout qu'on fasse une bonne sortie pour les joueurs qui sont historiques. On a des joueurs historiques qui vont arrêter en fin de saison. Donc, avoir cette sortie pour ces joueurs-là. Mais on a réussi, on avait quand même créé un groupe avec de fortes valeurs. Et on travaille très bien. Les mecs s'envoient vraiment à l'entraînement. Je trouve que depuis un mois, on retravaille très bien. On a eu un petit passage à vide, ce qui est normal. Et aujourd'hui, sur les 5 derniers matchs qui restent, on va essayer de remporter des matchs, on va essayer de très bien faire sortir les joueurs qui ne resteront pas au club. Et on prépare déjà l'année prochaine. Les joueurs qui partent le savent, j'en ai déjà parlé. On prépare l'année prochaine pour les joueurs qui restent, de retrouver un peu la culture de la gagne qui avait fait notre force la saison dernière. En tout cas, de rivaliser vraiment avec les équipes qu'on va jouer. Donc je trouve que tout le monde est concerné. Et je suis plutôt satisfait de ça, ce que je disais après le match de Toulon ce week-end.
Arthur, tu voulais rajouter un truc?
Ouais, j'avais une petite question pour toi, Sébastien. Ton directeur général, Johan Dallariva, il disait au début de la saison, vous êtes que 13 salariés à Montauban dans 6 alternants, là où des clubs en top 14 tournent à peu près 25-30 salariés. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est à ça qu'elle va servir cette saison-là aussi? C'est-à-dire se développer au niveau des infrastructures, du nombre de salariés, et tout ce qui, hors terrain, fait aussi l'importance du club?
Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr et certain. À partir de juillet, on est rentré dans un centre d'entraînement. D'ailleurs, Philippe, ils sont venus s'entraîner avec Aix-en-Provence. 18 millions d'euros investis. Donc, un centre d'entraînement qui est magnifique, avec tout qui est bien, en fait, pour les sportifs de haut niveau. Hein. avec des terrains synthétiques neufs, une salle de muscu immense, pour le centre de formation, la même chose. Donc on a une vraie structure. Maintenant, comme tu as dit, on va augmenter la capacité des salariés, il y a besoin de plus. Je pense qu'en début de saison, l'administratif a été un peu choqué de ce qu'il fallait faire. Et du coup, ils se sont mis au diapason quand même, ils me l'ont dit au bout de 6 mois. Mais ça a montré que si on était ambitieux, il fallait changer pas mal de choses. Et c'est ce que le club est en train de faire. En tout cas, il évolue de cette manière-là.
Et toi, Philippe, humainement et dans l'environnement, comment on se prépare à une accession potentielle humainement et dans les bureaux? Tu connais le top 14 en plus, tu donnes déjà un peu des conseils au cas où.
Pour être honnête, déjà nous on se concentre sur le match.
Bien sûr.
Voilà, on joue contre Angoulême et on est troisième, mais il reste 3 journées, mais on peut finir troisième comme on peut finir sixième. Donc ce championnat, Sébastien l'a dit, il est complexe, il est difficile. Après sur l'aspect back office, comme on dit, ils sont déjà allés visiter Montpellier pendant une journée pour voir comment ça fonctionnait, pour voir sur les infrastructures, sur tout ce qui est aussi l'avant-match, l'après-match. Voilà, on est un club à Provence Rugby où on a beaucoup de chance, c'est qu'on a des très très belles structures, hein, grâce au président Denis Philippon, grâce à Voyage Privé qui est notre sponsor principal. Donc on a déjà de belles structures. Par contre, nous, voilà, pour l'instant, on est que des outsiders. On est troisième. On a eu une période compliquée avec 16 blessés, capitaine, mes 2 vice-capitaines absents. On est en train de reprendre du poil de la bête. On est en train de récupérer un petit peu des joueurs. Et donc, on va se concentrer sur ce sprint des 3 prochains matchs. Et puis après les phases finales, voilà, ça sera que du plaisir, que du bonheur. Et si jamais il y a accession, et ben bon, vous pouvez comprendre que le mois de juin risque aussi d'être intense, parce que tu sois en D2 ou en top 14, la préparation, la préparation de la saison, les matchs amicaux et aussi le recrutement sera différent. Par contre, si on reste en D2, voilà, j'ai déjà finalisé mon squad pour la saison prochaine, donc avec un squad avec des joueurs j'espère de qualité et surtout ambitieux pour pouvoir un jour monter en top 14.
Eh ben, c'était fascinant de vous écouter dans cette discussion, messieurs Philippe Saint-André et Sébastien Tillousbord, pour bien comprendre la complexité de l'ascenseur, de la montée et descente, ou la construction d'une montée, ou la construction d'une descente, et d'un projet sur 3 ans aussi. Et bon, et en plus, on a bien compris que Sébastien et Philippe, vous connaissiez quand même pas mal. On rappelle que Philippe a sélectionné Sébastien notamment au 15 de France.
Donc il y a je l'ai connu avant. Il m'a sélectionné à Toulon aussi.
Ah ouais, voilà, tu
l'as. Très longue
durée.
C'est
moi qui l'ai récupéré à Toulon.
Exactement.
Et je veux le féliciter quand même du travail qu'il fait, voilà, parce que sincèrement, personne n'aurait mis une pièce sur ton club pour être champion de France de D2, et vous l'avez fait. Et comme tu l'as expliqué, jusqu'à fin décembre, vous avez vraiment été présent en top 14, et vous avez perdu quelques matchs de très très peu. C'est ça. Mais vous avez fait quand même un très très bon début de saison par rapport aux moyens financiers que tu as en top 14. Merci Philippe, c'est gentil.
Bah, si vous affrontez l'année prochaine, on va voir s'il y a les mêmes amabilités. Hein,
ah non, mais là, il se prépare, mais non, je peux t'assurer qu'il va
comprendre
les
deux, c'est un des
fiches qu'il va compter. Je suis en train de voir ce qu'il recrute.
J'ai bien compris, t'as bien compris Sébastien, que Philippe regardait tout, il regarde tout à la loupe déjà. Allez, merci beaucoup Sébastien Tillousbord, merci beaucoup Philippe Saint-André.
Salut les gars,
avec Arthur Jean et Nicolas Paul. Alors si on vous a écouté, franchement, on vous a donné la place aussi à cette discussion, parce que c'était super intéressant de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. On se retrouve dans Entre les poteaux sur la chaîne. Abonnez-vous évidemment sur les plateformes de podcast. À bientôt.